Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats.
Cette semaine, les aventuriers du Pixel Perdu s'engagent. Nos derniers voyages en date nous ont conduits de piquets de grève en barricade, là où les damnés du Pixel s'échinent sur des lignes de code afin de pouvoir donner aux consommateurs et consommatrices avides le énième opus d'une saga déjà si éculée qu'on y voit au travers. Oui, chères auditrices et chers auditeurs, un spectre hante le royaume du jeu vidéo à l'heure où le grand public découvre les conditions de production de son divertissement préféré. Pour ce 14e numéro, en route pour ces usines du fun que sont devenus les studios de développement de jeux vidéo.
Je me sens comme Julien le journaliste qui vit sans envie car le client lui dit il faut qu'on en parle.
Alors Thomas, qui est ce mystérieux Julien dont parle Mister MV dans sa chanson satirique ?
Il s'agit de Julien Chiez, qui était donc un journaliste de jeux vidéo, qui a été récemment au cœur d'un drama sur Twitter, où il s'opposait à William Oduro, qui avait publié une enquête dans Le Monde concernant les conditions de travail chez Rockstar Games, parce qu'il y a eu aussi une récente polémique sur le fait que le développeur, enfin le lead, enfin celui qui gérait le projet chez Rockstar, a déclaré que ses employés, c'était tellement un bon jeu, le jeu qui allait sortir de Red Dead Redemption 2, que les employés avaient passé plus de 100 heures par semaine dessus. Et voilà, des périodes de crunch, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire des périodes finales où on va essayer de finir le jeu le plus rapidement possible, mais c'est des périodes où justement on fait que ça, donc au défaut de boire, de manger, donc de la santé. Et il s'en vantait, enfin le patron de Rockstar s'en vantait.
Oui, comme si c'était un argument de promo du jeu, de dire des gens ont tellement bossé sur mon jeu qu'ils ont passé 100 heures par semaine, au-delà de toute durée vraisemblable de travail, en tout cas inoffensif pour la santé.
C'est tout à fait ça. Bah oui, justement dans son article et dans ses plusieurs articles, William Oduro parle de cette question-là, et Julien Chiez arrive en s'opposant à lui, en disant que voilà, ça a pris moins de temps de développement, que ce serait pas tout à fait vrai, et du coup William Oduro s'est pris quand même une bonne vague de harcèlement en ligne de la communauté de Julien Chiez.
On va laisser la parole à Julien Chiez, au principal intéressé, dans la vidéo qu'il a fait sur les coulisses de Red Dead Redemption 2.
Il y avait des tensions dans l'équipe, des tensions qui étaient à chaque fois évacuées avec beaucoup de franchise, et s'il fallait se séparer de personne, eh bien on le faisait. Ils bossaient énormément, mais parce qu'ils voulaient bousculer l'industrie. Et très honnêtement, si dans le monde artistique, on croit, vous croyez, je crois, nous croyons, qu'on peut faire des choses exceptionnelles sans y mettre vraiment de sa personne et de faire quelque chose d'exceptionnel, je crois qu'on se trompe tous. À l'époque ?
Alors, je tiens à préciser qu'on n'a pas rajouté la petite musique à la guitare derrière, et que la vidéo est réellement comme ça, quoi.
Ben oui, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre ensemble pourquoi ça va être un grand jeu, pourquoi c'est un grand moment de célébration, en niant totalement les gens qui ont passé leur santé dessus. Enfin, il y a cette idée dans ce qu'il dit, voilà, de tout sacrifier pour une œuvre majeure, exceptionnelle, globale, qui serait le triple A du jeu vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire la grosse production des équipes de centaines de personnes, des animations par centaines de milliers, des heures de script, enfin énormément d'accumulation de choses dans le jeu, de remplissage pour lequel on sacrifie énormément. S'il faut se séparer de gens, on se sépare de gens, c'est pas un souci. Le but ultime, c'est de réussir ça et de vraiment considérer ça comme un genre de but en soi, peu importe, la fin justifie les moyens, quoi. Pour Julien,
oui, on aboutit à une forme de fétichisme du jeu, comme Marx parlait du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire que on ne se pose pas la question de ce qu'il a fallu sacrifier derrière l'objet jeu qui est ensuite vendu. On adule un produit final, une expérience qu'on vend, comme en parle Julien Chiez, au-delà de la force de travail qu'il a fallu mettre et tous les sacrifices auxquels il a fallu consentir pour en arriver là.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une idée d'oublier totalement ce genre de peuple de l'ombre que sont les développeurs, de ceux qui travaillent sur le jeu, et de maquiller ça par un genre de lissage total par le patron, par l'éditeur, par le studio. Et on aboutit à une forme de... Ce lissage peut aller dans des formes assez violentes et des formes assez corporate. Enfin, c'est William Oduro dans un tweet qui raconte qu'il a contacté quelqu'un de Rockstar India, je crois, et que quand il a commencé, William a lui parlé des conditions de travail dans le jeu vidéo, de chez Rockstar, il a supprimé son compte. Enfin, c'est-à-dire qu'il lui a pas répondu, il a supprimé son compte Twitter, enfin je sais plus quel compte c'était, mais il a supprimé son compte tout de suite. Et voilà, et Oduro conclut en disant le management par la terreur. C'est vraiment ça, c'est l'idée d'un management qui se fait... il faut rentrer dans le rang et on fait tout pour rentrer dans le rang qui en fait est caché par un simili-mythe de la passion, enfin quelque chose vraiment de l'idée que le développeur il est vraiment dans une volonté de créer quelque chose d'incroyable, de faire œuvre de jeu, quoi. C'est vraiment cette idée là c'est son grand œuvre à la manière des alchimistes, enfin c'est le but d'une vie, quoi.
Il y a un délire un peu presque messianique derrière, enfin il suffit de reprendre le champ lexical employé par Chiez, quoi, c'est-à-dire bouleverser l'industrie, limite un truc un peu qui arrive comme le messie, un truc révolutionnaire qui remet tout en cause depuis le début, alors que ce n'est qu'un jeu de plus, en fait, et c'est qu'en plus un jeu issu d'une franchise de plus, c'est juste un marketing agressif, enfin inconvenant, il y avait des affiches dans le métro de partout, oui, pour Red Dead Redemption et tout ça, c'est facile aussi de créer une fausse révolution à force de communication bien sentie autour d'un jeu qui est finalement une expérience qu'on vend, une marchandise qu'on vend, et qui est totalement fétichisée.
C'est que la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, il y aura un nouveau jeu qui bouleversera l'industrie, et en fait ce sera suivi d'un autre jeu qui bouleversera l'industrie. Enfin, il en sort constamment des jeux qui bouleversent l'industrie, et finalement, on met des moyens énormes, exorbitants, et des moyens humains, là. Enfin, c'est ces gens-là qui bossent 100 heures par semaine, on met des moyens exorbitants dans des jeux qui sont finalement des jeux que l'éditeur, que le développeur veut considérer comme des apax, comme des moments uniques dans la vie du studio, c'est-à-dire que c'est vraiment il faut construire ce jeu, il faut le porter, il faut être à fond dedans parce que c'est un grand moment. Mais enfin la question c'est est-ce que c'est un grand moment pour l'entreprise ou pour le développeur.
Oui, et puis il y a quelque chose de l'annihilation de l'angle alpha des développeurs, puisque c'est vraiment une thèse de Lordon, c'est-à-dire de dire que l'angle alpha c'est ce qui sépare le désir du salarié du désir du patron. Le patron, il a besoin d'enrôler des puissances d'agir, d'enrôler des personnes pour mener à bien un projet qui est le sien. Donc du coup, il va faire croire, il va tenter de déterminer le salarié à penser que son désir correspond et totalement corrélé à celui du patron, c'est-à-dire, et à celui de l'entreprise. Et c'est totalement ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire croire aux développeurs que leur désir est celui de faire un jeu exceptionnel, pour reprendre encore une fois la terminologie de Julien Chiez, et que du coup, son désir se confond totalement avec celui de l'entreprise et que finalement, il fait ça, le crunch, cette espèce de dévouement, d'abnégation, dont il va faire preuve, est totalement normal dans ce contexte. Et tout ce délire-là de l'idée qu'il a envie, qu'en fait son désir le plus cher, c'est d'achever ce jeu et d'achever un jeu exceptionnel, est renforcé par cette espèce de culte de la passion qu'on retrouve dans tous les travaux créatifs.
Oui, c'est ça. C'est vraiment s'appuyer sur ce culte de la passion. L'entreprise, l'éditeur, il va arriver, enfin, dans la stratégie de management, quoi. Il va arriver, il va dire, ah, mais si, mais tu vois, enfin, c'est en accord avec ta créativité, c'est en accord avec toi. Enfin, on fait quelque chose qui découle de ta passion. Et aujourd'hui, il y a ce culte de la passion qui existe. Enfin, on pensera à la ministre du Travail qui a dit récemment que un métier créatif, le plus beau salaire qu'il puisse recevoir, c'est de la reconnaissance. On pensera à tous ces gens aussi qui pensent que la visibilité, c'est une manière de payer les métiers créatifs. Mais enfin, voilà, c'est cette idée que les travaux créatifs sont fondés à être moins rémunérés parce qu'ils relèvent de la passion et que, justement, en abolissant l'angle alpha dont parle Lordon, on va mettre sur le même plan les désirs de l'entreprise et la passion du... Et la passion du développeur, en fait. Et il y a tout ça, après il y a toute cet engouement du développeur, c'est-à-dire que le développeur, enfin il y a plein de témoignages dans un super article que Canard PC et Mediapart ont fait lors d'une enquête plus globale qui s'appelait Crunch Investigation, où justement ils montraient, ils faisaient parler des développeurs et qui montraient que voilà, la passion c'est un carburant, en fait, c'est un moyen pour l'entreprise de dire allez-y.
Oui, de les tenir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on contamine totalement ce qui relève du travail, c'est-à-dire du fait de vendre sa force de travail virtuelle en tout cas, à des questions individuelles, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va faire jouer sur le même plan ce qui relève du privé et ce qui relève de ce que le travailleur veut bien fournir dans le processus de production. Et puis on retrouve ce fétichisme de la marchandise, en tout cas ce fétichisme du jeu vidéo, du côté de la réception, parce que les gens notent les jeux comme si, sans réfléchir, en disant parfois qu'il faut, et que c'est une question d'équilibre de moyenne, ou alors ils vont pas hésiter à totalement bâcher un jeu sur les forums, sur Twitter, à totalement insulter les développeurs, mais comme si c'était des espèces de créatures totalement éthérées, totalement abstraites. En oubliant totalement que derrière se situe, enfin qu'un jeu c'est du travail.
Oui, moi j'ai déjà vu des gens sur jeuxvideo.com qui mettaient des zéros au jeu en disant mais c'est pour rééquilibrer parce que tout le monde est en mode oh là là c'est le meilleur jeu de l'univers. Enfin, il y a une méconnaissance complète de tout le système de travail et de tous les gens qui sont derrière cette œuvre qui fait que ouais ça nous arrive comme voilà c'est tout le fétichisme de la marchandise, c'est que ça nous arrive comme un bien et qu'on sait pas toute la chaîne de production qu'il y a eu derrière, on sait pas les efforts qui ont été fournis ou le travail aussi qui était placé derrière, en fait.
Et puis on en aboutit à une espèce de logique d'industrie où le patron est considéré comme la tête pensante, le self-made man un petit peu qui est à la tête de tout ça et qui a autorité sur le jeu et sa production. C'est-à-dire qu'on va oublier, enfin ce qui renforce ce fétichisme de la marchandise, c'est qu'on oublie totalement toute l'armada de créateurs au profit de la tête pensante qui va symboliser l'entreprise et qui va porter la parole de l'entreprise tout au long du processus de marketing, on va dire en gros.
Bah oui, si on regarde les scènes de l'E3, enfin du dernier E3, les gens qui viennent sur scène, c'est pas tous les développeurs du jeu, hein, c'est les gros, enfin Bethesda par exemple, à Todd Howard, enfin c'est toujours les têtes pensantes qui viennent s'exprimer ou des têtes pensantes ou les gens qui ont été fixés comme étant les têtes pensantes aussi du projet, parce que c'est des gens soit qui ont de l'ancienneté, du coup qui ont une certaine légitimité à venir porter une parole globale, mais en fait il y a aucune prise en compte de la communauté, c'est-à-dire que on envoie ce type, mais les gens sont pas... Enfin, les développeurs n'ont pas vraiment leur mot à dire. Il n'y a pas de porte-parole des développeurs, en fait.
Eh bien, tout ça a commencé, en fait, en 1998. Et l'anecdote est absolument savoureuse. À l'époque, on est très très loin encore de la hype, de la renommée colossale dont jouira quelques années plus tard Rockstar. En 1998, Dan Houser part un mois en Amérique du Sud pour faire le point. C'est pas du tout une période extrêmement reluisante. Et là, il se retrouve sur une plage en Colombie. Il est 9h du matin et les postes de police ouvrent à 10h. Si je vous dis cela, c'est tout simplement parce qu'il va se retrouver pourchassé par 3 vagabonds brandissant des machettes et un flingue cassé. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas GTA, c'est sa vie. À lui. Il le confesse lui-même. Il a fait une grosse bêtise. À ce moment-là, il ne dévoilera pas de quoi il s'agit. Il court, il réussit un peu à se cacher, et il va recevoir, ce jour-là, un mail de son frère, resté à New York, et qui lui dit « Viens, viens à New York pour bosser pour Rockstar, justement, sous l'égide de Take-Two. » Et là, sa vie et la vie finalement, le paysage du jeu vidéo va basculer, entre guillemets, à tout jamais. Puisque une semaine plus tard, il se retrouve dans le grenier d'un loft à Soho à travailler.
Oui, donc là on entend un récit d'une histoire qui serait arrivée au patron de Rockstar sur une plage en Colombie et qui n'a rien à faire dans ce processus de promotion du jeu. On ne comprend absolument pas quel est le rapport avec tout ça, mais ça contribue à légitimer une espèce de légende, de mythe du patron, du self-made man et tout ça, et qui dissimule encore une fois le travail effectué par les développeurs.
Oui, et puis qu'il lie sa vie lui-même, sa vie propre au jeu. Enfin, ce n'est pas GTA V, ce n'est pas un jeu, c'est sa vie. Enfin, ça met en parallèle sa vie à lui, à Dan Houser, et au jeu, à la vie du jeu. Alors que la vie du jeu, elle n'est pas seulement composée de la vie de Dan Houser, elle est composée de la vie des centaines de gens qui ont bossé sur ce projet, en fait.
Et du coup, on se dit, ce type-là qui raconte ses histoires de vacances, bon, certes rocambolesques, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qui nous intéresse, ça nous ramène à des problèmes qui quand même travaillent le jeu vidéo depuis un certain temps. C'est le problème de l'autorialité, c'est-à-dire qui a autorité sur le jeu, qui a autorité sur l'œuvre, qui a autorité sur la production. Alors sur sa production, ça pose des questions, parce que certes, Dan Houser possède les moyens de production, etc. Mais enfin, les gens qui passent des centaines d'heures plus de 100 heures par semaine, ce sont les développeurs, ce sont eux qui donnent vie au jeu et tout ça, et c'est lui qui porte une parole sur le jeu dans les médias pour en faire la promotion. Mais est-ce que ça lui donne pour autant autorité sur l'œuvre en dernière instance ? Quand il y a un seul développeur, c'est facile. Enfin,
oui.
Tu parlais de Lucas Pop, celui de Papers, Please et tout ça. Là, on dit c'est un jeu de Lucas Pop. Enfin,
oui,
voilà.
Parce qu'il y a qu'une seule personne derrière, ou même le créateur d'Undertale dont j'ai oublié le nom, c'est une seule personne aussi. Et voilà, on met l'œuvre sur son dos à lui parce que c'est lui qui l'a créé. Mais quand on est face à une multitude de gens qui ont travaillé dessus, qui forment pas forcément en fait une association, une communauté, en fait, c'est vraiment il y a pas d'association, c'est une multitude qui a travaillé dessus. C'est
un travail très segmenté en plus, c'est-à-dire vraiment
oui.
un travail divisé entre les personnes qui s'occupent de telle et telle partie et tout ça. Et du coup, ça légitime totalement le fait que ce soit le patron qui en retire la gloire. Mais c'est quand même plus compliqué que ça.
Bah, c'est-à-dire qu'on nous présente ça comme une œuvre d'art, mais relevant, ou une œuvre relevant même seulement de l'autorité de ce patron-là, de celui qui a eu l'idée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce mythe qui est construit dans la promo et ces choses-là. C'est que, voilà, le type, il a travaillé. Enfin, à un autre moment aussi, on entendra que le mec travaillait depuis 10 ans, enfin, des années dessus, et qu'il a mûri le projet, et qu'en fait, on a presque l'impression, en fait, que c'est lui qui a fait tout le boulot, et que les autres sont arrivés pour donner, voilà, corps, mais que le squelette était déjà là, et que tout a été fait grâce à lui, quoi. Alors que, enfin, il y a eu un travail des développeurs qui est très important et qu'on peut pas nier, et qui vaut quelque chose, même s'ils sont pas associés comme l'individu patron, quoi.
Et puis dans ce modèle-là d'industrie, on peut se demander si on n'est pas plus face à du coup un groupe de développeurs qui est réduit à un effet de meute, qu'on ne veut surtout pas qu'il se constitue comme un collectif d'auteurs, pour rester dans une logique d'accumulation, c'est-à-dire accumulation de détails, accumulation d'éléments dans ce monde ouvert que sera le jeu, mais qui à chaque fois est coupé de la création, du vrai processus de réflexion sur l'œuvre.
On refuse la création aux développeurs, en fait. On leur dit non, ce que vous faites, c'est pas de la... C'est comme si, en fait, c'était les sous-traitants du patron. Enfin, c'est vraiment cette idée. C'est qu'ils viennent donner une forme à quelque chose qui était déjà là avant. Et que oui, en effet, c'est cette logique de l'accumulation. C'est-à-dire remplir l'open world qui aujourd'hui est très à la mode. Remplir l'open world avec moult choses, moult interactions, moult possibilités. Et du coup, plus dans, voilà, comme tu dis, l'accumulation, la prolifération, et pas forcément la création, pas forcément l'œuvre.
Et puis dans une réponse à une demande très marchande, c'est-à-dire la demande du marché, sans se dire, tiens, comment est-ce qu'on va constituer une œuvre, comment est-ce qu'on va penser cette œuvre. Non, ça va être, on répond, on est dans la production, on répond au consommateur, on répond à une demande, on est l'offre, et on ne doit pas se poser de questions qui dépassent ce processus de demande-réponse à la demande, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans l'épisode 2 de la saison 1 de Westworld.
L'histoire que je vais vous dépeindre va faire passer Jérôme Bosch pour un artiste qui barbouillait des chatons. J'ai de la vivisection, de l'auto-cannibalisme, un petit truc spécial que j'appelle Ouroboros. Ceci dit, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais ça, c'est le top du top de ce que ce parc peut proposer. Horreur.
J'ai raté un truc important.
Romantisme. excitation.
Lee ne fait pas dans la modestie.
Nos invités les plus talentueux devront batailler pour atteindre les limites du parc. Battre des guerriers redoutables. Séduire de jeunes nubiles. Nouer des amitiés avec des acolytes au destin tragique. Et, bien sûr, comme dans toutes nos meilleures histoires depuis des années, nos invités auront le privilège d'apprendre à connaître le personnage qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes. Voici ce qui sera la nouvelle obsession de nos invités. Odyssée sur le fleuve rouge. Merci.
Alors là, on a la présentation de la nouvelle, du nouveau scénario, en tout cas de la nouvelle aventure qui est proposée aux visiteurs du parc dans Westworld, donc qui est une série qui raconte l'histoire d'un parc où les visiteurs peuvent jouer au Far West parmi les androïdes plus vrais que nature. Et le scénariste, qui est un petit peu le personnage du créateur de jeu au service duquel bossent tous les développeurs, tous les créateurs d'androïdes et tout, présente cette nouvelle aventure qu'il vient d'inventer, qui s'appelle Odyssée sur le fleuve rouge, mais qui n'est là que pour satisfaire des désirs présumés d'un consommateur type, sans forcément réfléchir à toute la complexité que pourrait revêtir une aventure dans le parc de Westworld. On est vraiment dans cette idée de ouais, d'accumulation d'un truc plein de clichés, les Indiens, les nubiles que tu vas sauver dans l'Ouest sauvage et tout. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui transparaît à travers toute cette présentation, c'est l'abolition totale de tout questionnement éthique à plusieurs niveaux, et c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo aujourd'hui. Alors là, c'est d'autant plus frappant que c'est avec des androïdes qui éprouvent des sentiments humains, etc. Mais dans le monde du jeu vidéo, on s'aperçoit que cette espèce de rush sur la fin du jeu, etc., ça abolit non seulement les questions éthiques au niveau de l'exploitation des employés, mais aussi au niveau des représentations qui sont charriées par le jeu.
Oui, bah on le retrouve avec la représentation des femmes, on en parlait dans le numéro 10, enfin, où justement dans les triple A, ça va être des représentations assez stéréotypiques, sommaire, ouais. Ouais, sommaires, et puis très clichés. Et puis aussi, dans le dernier numéro aussi, le 13, où on parlait des représentations coloniales, donc représenter d'autres populations, c'est toujours fait de manière aussi très clichée, de manière très...
Et on a l'impression que ce cliché, ce stéréotype dépend d'un manque de temps aussi passé sur ces questionnements qui pourraient traverser le jeu vidéo si vraiment il s'assumait en tant qu'art.
Oui, parce que ça va... Enfin, c'est des questions qui vont être finalement support à l'expérience qu'on veut vendre. Enfin, ça va juste être des moments où le joueur va traverser, mais qui vont pas du tout être intéressantes à traiter. Le jeu AAA, la logique de pensée, la logique de production derrière un jeu AAA, c'est qu'il marche. C'est pas de poser des questionnements ou de faire ça, parce que on est justement dans cette logique de rendement qui s'arrête jamais, et on ne se pose jamais la question des représentations, des questionnements, et de ce qu'on va dire dans ces jeux-là.
C'est ça, il ne s'arrête jamais sur... justement sur le fait de prendre le temps de savoir ce qu'on code, quoi, quelle représentation on va charrier dans quand même un médium qui a une certaine responsabilité en termes de représentation.
Oui, c'est clair. Et du coup, en fait, ce faisant, ça, les logiques de production capitaliste qui sont inhérentes aux jeux vidéo, elles vont empêcher le jeu vidéo d'accéder à son devenir d'œuvre d'art, parce qu'il n'y a aucune réflexion, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le médium vidéoludique dans sa spécificité, on va s'en servir comme d'une machine à faire de l'argent, à vendre des exemplaires du jeu, et on ne va pas chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut raconter des choses, dire des choses qui pourraient intéresser les développeurs au premier chef. Les développeurs sont pris dans
une course en avant, finalement.
Oui, dans la course en avant qui les empêche de vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Enfin, c'est ce que disent tous les témoignages de crunch, c'est-à-dire que ils font ça, ils arrivent au crunch, c'est la pire période de leur vie, ils passent au moins des semaines à se remettre, et après ils se relancent dans un projet, et en fait c'est un cycle sans fin qui s'arrête jamais, et qui est là pour toujours produire, et qui marche par vagues plus ou moins fortes, mais qui arrive toujours à entretenir le développeur dans l'idée qu'il travaille par passion, qu'il fait quelque chose qu'il pense être quelque chose où il va laisser sa trace, mais qui en fait finalement est totalement soumis aux logiques de marché, et qui l'empêche totalement de s'exprimer lui-même.
Et où du coup le seul La seule ligne directrice, en tout cas, qui reste, ça va être la demande, en fait. La demande, ce que demande le marché, et c'est la critique que formule Westworld, et c'est la critique que formule aussi Assassin's Creed 4, avec une espèce de distanciation qu'on pourrait presque qualifier de brechtienne, qu'intègre finalement le scénario du jeu.
Oui, parce qu'en fait, dans Assassin's Creed 4, dans la période du présent, on joue un nouvel employé dans une boîte de jeux vidéo qui ressemble énormément à Ubisoft. Et en fait, le fait d'être dans l'Animus, dans ce numéro-là, va collecter des informations pour créer un jeu que les Templiers créent. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on vit en tant que joueur et ce que le jeu qui est créé dans le scénario va raconter. On va raconter ce qu'on voit, nous, le joueur. On va voir des personnages qui sont aux prises avec des dilemmes moraux. On va voir des gens qui sont pas forcément des pirates sanguinaires. Mais ce que le trailer, lui, va représenter, il va représenter des êtres totalement...
le trailer intradiégétique.
Pardon, oui, le trailer intradiégétique qui est fait pour la boîte pour laquelle travaille le personnage du jeu. Et ce trailer est très manichéen, est très réducteur et montre bien aussi cette idée que c'est aussi une question de temps qu'on prend. Parce que...
Oui, c'est aussi une question de temps qu'on prend finalement, parce que l'idéologie capitaliste conduit non seulement à faire le jeu vite, enfin à fabriquer le jeu vite, à répondre à une demande immédiate sans questionnement artistique, éthique, etc. Et en plus, à ce que le jeu lui-même en appelle un suivant et encore un suivant, etc. Et c'est là que ça nous renvoie aussi à une question éthique qui repose plus sur des questions peut-être écologiques, etc., qui relève d'une certaine accumulation, mais dans le réel, du nombre de jeux, de la production qui sans cesse pousse à produire toujours plus de jeux, et qui elle-même pose des problèmes à terme écologiques, comme on en parlait dans le 7e numéro de notre émission.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, le jeu vidéo va arriver dans toutes ces impasses. Enfin, il y a plusieurs impasses qui vont être causées justement par sa nature capitaliste, et que ces impasses-là, il va forcément y arriver un jour. Et je pense qu'on y arrive très fortement. Ça se voit, oui, ce qu'on a dit sur l'écologie, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une crise humaine que subit le jeu vidéo, qui continue, et qui gagnerait aussi, pour être surmonté, peut-être à être... déjà plus médiatisé, c'est-à-dire que le problème des développeurs, du rôle des développeurs et de la vie des développeurs soit plus médiatisé, mais aussi que les développeurs puissent avoir une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir s'unir, s'allier, comme dans des syndicats en fait.
Oui, parce qu'il en existe déjà en France, des syndicats, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo en France, qui a effectué, soutenu un certain nombre de mouvements de grève, mais c'est un cas quand même qui est typiquement français. Et de telles luttes gagneraient à être généralisées pour construire un terreau pour un jeu vidéo qui penserait en tant qu'art et qui prendrait le temps de se constituer en tant que tel.
Et puis qui existerait après la crise du capitalisme, la crise inévitable qu'amène le capitalisme. C'est-à-dire que d'une part, il faudrait inventer un système justement où les développeurs saisissent les moyens de production, mais aussi les moyens de production de l'auctorialité, c'est-à-dire qu'ils soient capables de produire des jeux où on reconnaît leur auctorialité dans le processus et qu'ils ne soient pas juste des noms à la fin du générique et qu'on reconnaisse vraiment leur rôle à eux. Et surtout aussi... peut-être aussi une certaine prise de conscience d'un cercle vicieux du point de vue des joueurs, et l'idée que, évidemment, aujourd'hui, on est tous baignés dans ces logiques-là, enfin, nous les premiers, c'est-à-dire que c'est des... je m'étais jamais posé la question des développeurs ou des travailleurs avant, et justement, ce genre de crise doit nous amener à repenser ce cercle vicieux qui est celui de la production, celui de toujours acheter forcément, sinon on n'est pas dans la course en avant que nous impose aussi ce rythme-là. Du coup, des deux côtés, il faut essayer de repenser les choses comme ça. Après, comment est-ce que c'est possible, c'est une toute autre question, mais essayer d'arriver à penser à ce niveau-là, quoi.
Et il ne faut pas tout balayer sous le tapis en disant simplement faire quelque chose d'exceptionnel nécessite des moyens exceptionnels. Et ce sera le mot de la fin de ce numéro 14 des Aventuriers du Pixel Perdu. À bientôt pour de nouvelles aventures, et en attendant, jouez bien.